Chapitre 7. Severus Rogue, langue de plomb. Severus Rogue les attendait chez lui à 10 heures le lendemain. James ne vint pas. Harry ne put déterminer si c'était son agenda chargé qui l'en avait empêché ou s'il n'avait pas supporté l'idée d'être dans la même pièce que l'odieux personnage. Ce Rogue-là ressemblait beaucoup à celui que Harry connaissait, sauf qu'il ne semblait pas haineux à son égard. Pas amical non plus, il fallait l'admettre, mais il n'y avait pas cette tension constante à laquelle son professeur de potions l'avait habitué. Harry se demanda si d'avoir sauvé la vie de James, et ainsi épongé la dette qu'il avait eue à son égard, avait éteint une partie de la haine qu'il lui portait. Lily ne lui ayant pas exposé par écrit les raisons de sa visite, la première demi-heure fut consacrée aux explications. Dumbledore résuma le plus succinctement possible tout ce que Harry leur avait révélé les jours précédents. Le regard que Rogue posa sur le jeune homme durant le récit du directeur était surtout spéculatif. Aucune sympathie ni compassion, mais au moins, Harry n'avait pas l'impression qu'on allait le rendre responsable de tous les malheurs de son monde. Quand Dumbledore conclut son récit, Harry remarqua qu'il n'avait pas précisé qui avait tué son double. Il n'osa pas préciser ce point. Rogue réfléchit un long moment, une fois le silence revenu, et finit par demander
« Qu'attendez-vous de moi, exactement ?»«
Nous avons besoin de vos connaissances en magie noire pour indiquer à ce jeune homme une manière de détruire les Horcruxes. » »«
J'ai beaucoup de travail en ce moment, » fit l'homme en haussant les épaules.
« Je t'en prie, » intervint Lily. Des milliers de personnes sont en train de vivre dans la terreur que nous avons connue. Nous n'avons pas le droit de leur refuser notre aide.
« Qui nous garantit qu'il retournera là dont il vient ?»
opposa le langue de plomb.
« C'est Poudlard qui nous l'a envoyé, » répondit Dumbledore. « C'est donc à moi de me préoccuper de cela. Nous avons besoin de votre savoir. »
Harry bouillait de colère. Comment avait-il pu un instant le trouver moins mauvais que l'autre? Cette indifférence et sa façon d'ignorer la présence de Harry en parlant de lui comme s'il n'était pas là ulcéraient le jeune homme. C'est avec difficulté qu'il s'était fait violence pour venir lui demander de l'aide. Se voir ainsi repoussé était plus qu'il ne pouvait en supporter.
« Vous allez nous aider. Vous me le devez. C'est à cause de vous que mes parents sont morts et que j'ai cette fichue cicatrice. »
Rogue, impassible, posa un moment les yeux sur le front que lui désignait Harry avant de tourner les yeux vers Lily comme pour démontrer que ses prétendues victimes étaient bien vivantes.
« Harry, » intervint Lily d'une voix fatiguée, « nous en avons déjà discuté hier. »«
N'avez-vous pas vécu dans la peur durant des mois ?» s'agaça Harry. « Votre vie et celle de votre fils n'ont-elles pas été en danger ? N'avez-vous pas dû prendre un gardien du secret ? Et pourquoi ? Parce que ce misérable a rapporté les termes de la prophétie à son maître. » Là, c'est bien de lui qu'il s'agit, non ?
Lily regarda Rogue d'un air interrogateur. Ce dernier ne manifesta aucune émotion. Dumbledore dit doucement.
C'est lui également qui a envoyé notre Voldemort sur une fausse piste et nous a permis de l'arrêter. Il a risqué sa vie pour réparer sa faute. Il ne doit rien à personne. Il nous aidera parce qu'il le veut bien, par amitié pour nous.
« Je vous en prie, professeur, vous savez parfaitement que je n'ai pas ce genre de sentimentalité, » opposa Rogue.
« Mais vous nous aiderez, »
affirma Dumbledore sur le ton du simple constat.
« Oui, mais pas pour les beaux yeux de ce jeune prétentieux, juste pour le plaisir de détruire les derniers lambeaux du Seigneur des Ténèbres. Au fait, avez-vous une idée de l'identité du mystérieux R.A.B. ?»
demanda-t-il avec un demi-sourire.
« Je pense avoir deviné qui c'est, »
admit le directeur.
« Et vous, jeune Potter ?» demanda Rogue à Harry sur un ton qui lui rappela de très mauvais souvenirs de classe.
Lily dut sentir la tension créée par ces mots, car elle posa une main sur l'épaule de son protégé, assis à côté d'elle, comme pour indiquer que personne ne le prendrait à partie sans qu'elle n'intervienne. Le langue de plomb eut un sourire un peu moqueur qui mit le feu aux joues de Harry, qui dut se retenir pour ne pas signifier à Lily qu'il était parfaitement capable de se défendre tout seul.
« Regulus Arcturus Black »,
révéla Albus Dumbledore pour ne pas faire durer l'inconfortable silence.
Régulus Black ? S'étonna Harry. Le frère de Sirius ?
D'où Merlin ? Souffla Lily.
C'est Bellatrix Black, l'Estrange, qui a été chargée de lui signifier le déplaisir du maître, se rappela Rogue.
Il a toujours eu une prédilection pour les assassinats familiaux, remarqua-t-il. Quoi qu'il en soit, elle a été châtiée alors même qu'elle avait éliminé ce cher Régulus. Nous nous étions demandé pourquoi, à l'époque. Je suppose qu'elle n'a pas dû retrouver l'objet.
Peut-être que Sirius aura une idée de l'endroit où son frère a pu le cacher, avança Lily.
Oh, le pauvre! Il va être bouleversé quand il va savoir.
Il me paraît préférable de garder pour nous toute cette histoire, opposa Rogue d'un ton qui indiquait qu'il était parfaitement indifférent aux états d'âme de l'aîné des Blacks.
Je me passerai volontiers de concurrent dans cette passionnante chasse au trésor.
Il faut évidemment éviter que d'anciens mange-morts non repentis s'emparent de cette histoire, opina Dumbledore. Mais si Sirius Black est le seul à pouvoir nous indiquer où est l'objet...
Je pense savoir où est le médaillon, intervint Harry. Enfin, où il est dans mon monde.
Quand il avait réalisé qui était R.A.B., il avait pensé à Sirius et se l'était remémoré dans la maison de Squire Grimore. Ayant en même temps en tête le médaillon tel qu'il l'avait découvert dans la pancine de son directeur, il avait enfin fait le rapprochement et avait revu l'objet là où il l'avait eu sous les yeux la toute première fois. Les trois adultes attendaient qu'il dise ce qu'il savait et il continua.
Quand nous avons fait le ménage dans la maison des Blacks, nous l'avons retrouvé, sans savoir ce que c'était. Je me rappelle juste que nous n'avons pas réussi à l'ouvrir.
Il doit toujours y être, en conclut Lily.
Sauf si Sirius a mis la main dessus et s'en est débarrassé, fit remarquer Harry.
Sirius n'a jamais remis les pieds dans cette maison, lui apprit Lily. Il a essayé de la vendre, mais personne n'a voulu l'acheter. Elle est donc dans l'état où tu l'as connue, et le médaillon doit toujours y être.
Il nous reste encore à retrouver la bague des Gaunt dans les ruines de la maison de sa mère, conta Harry. Le journal de Tom, en possession de Lucius Malfoy. La coupe de Poufsouffle, Nagini.
Voldemort n'a jamais eu d'animal de compagnie, indiqua Rogue.
Et d'après ce que j'ai compris, compléta Dumbledore, cet Horcrux aurait été créé après le retour de Tom. Il n'existe donc pas ici, et ce ne sera pas pour vous le plus difficile à éliminer. Il suffira de le tuer.
C'est tout ? S'étonna Harry.
Oui, paradoxalement, quand un fragment d'âme est placé dans un être vivant, il est facile à envoyer dans le monde des morts,
expliqua le directeur.
Et il suffit de tuer son porteur et l'âme de l'animal entraîne avec elle la partie supplémentaire.
Et il ne suffit pas de casser l'objet contenant le Horcrux pour qu'il s'échappe ?
Non, il reste amalgamé à la matière qui, elle, reste parmi nous, tout comme le corps des décédés.
Ah, dommage, regretta Harry.
Bon, j'ai tout dit sauf un objet ayant appartenu à Serre d'Aigle ou à Griffon d'Or.
Il en manque un, remarqua Rogue.
Non, j'ai tout dit, affirma Harry, après avoir récapitulé les éléments dans sa tête.
Eh bien, il en manque tout de même un, affirma Rogue.
C'est exact, confirma Dumbledore. D'après ce que nous avons compris, Tom voulait créer six Horcrux qui, ajouté à la part d'âme qu'il garderait en lui, constituerait 7 fragments. Il en avait donc réalisé 5 et comptait finaliser le 6e en vous tuant. Il a dû aller à Godric's Hollow avec l'objet qu'il avait choisi encore non activé. Pour en revenir à notre liste, ce serait donc une relique de Serre d'Aigle ou un objet ayant appartenu à Griffon d'Or.
Mais je n'ai pas à rechercher le 6e, puisque Voldemort a échoué à le transformer.
Il y a eu 2 morts, et même 3 en le comptant, le contredit Rogue. Il serait inconsidéré de ne pas s'assurer que ce Horcrux n'existe pas.
Oh non, soupira Harry. Avec Nagini, j'en ai donc 7 en tout, et seulement 2 de déjà détruits.
et dans les 5 restants, il y en a 2 que je n'ai jamais vus.
« Je me charge des Horcruxes, »
le rassura Dumbledore.
« Vous ne repartirez pas sans les avoir vus et sans connaître leur possible localisation. Quant à vous, Lily et Severus, je compte sur vous pour nous apprendre comment les désactiver. »
« Et moi ?» demanda Harry.
« Eh bien, si vous tenez vraiment à vous occuper, je pense que je vais vous trouver un professeur de défense contre les forces du mal. »
Le lendemain matin, Lily partit très tôt pour rejoindre Severus Rogue et lire avec lui tout un stock de livres de magie noire qu'il avait exhumé dont ne voulait savoir où. James débarqua dans la salle à manger alors que les 3 jeunes prenaient leur breakfast et posa les baguettes des 2 Harry sur la table. En réponse au regard surpris des 2 jeunes gens, il expliqua. « Harry, c'est moi qui vais t'entraîner en défense et en duel. »
« Vous ?» s'étonna Harry avant de se demander un peu tard s'il n'était pas vexant.
« Tu doutes de ma compétence ?»
demanda James, plus amusé que froissé.
« Non, bien sûr que non, » lui assura Harry avec sincérité. « Après tout, si les choix de Dumbledore avaient pu parfois paraître curieux, ils n'avaient jamais été infondés.
C'est juste qu'on ne m'avait jamais dit que mon père avait des compétences particulières dans cette matière. »
« Ce n'était pas ma matière la plus forte à l'école, effectivement. » concéda James. «
Mais quand j'ai appris que mon enfant à naître était impliqué, malgré nous, dans la guerre, j'ai pris quelques leçons avec un aurore qui s'appelait Alastor Maugrey. C'était le meilleur. »«
Je le connais, » lui apprit Harry.
« Vraiment ? Parce qu'il est mort le jour de l'arrestation de tu sais qui, chez nous. Bref, je suis peut-être un peu rouillé, mais je ne suis que l'instructeur et mes connaissances théoriques suffiront. Tu me fais confiance ?»«
Bien sûr !»
s'exclama Harry.
« Parfait. J'ai aménagé une clairière dans la forêt pour que nous ne soyons pas dérangés et que nous ne blessions personne. Je te conseille de manger davantage, » ajouta-t-il en poussant vers Harry une assiette de céréales. « Tu en auras besoin. »«
Et moi ?» demanda l'autre.
« Je ne prends que les élèves ayant eu un « O » dans cette matière à leur buse, » répliqua James.
« T'as eu un « O » en défense ?» s'étonna le fils de la maison en regardant son double.
« Oui, j'ai fait un patronus corporel à l'examen, » expliqua l'autre un peu gêné.
« Ah ouais, quand même !» fit son double admiratif.
« De toute façon, » fit remarquer James à ce dernier, « tu pars demain chez les Londubas. Ta mère te fait dire de préparer ton sac dès aujourd'hui, et elle a précisé qu'elle ne t'enverrait pas tes caleçons comme la dernière fois si tu les oubliais. »
Rose pouffa et Harry ne put retenir un sourire.
« Pas grave, » répliqua l'étourdi. « Je n'en mettrai pas sous ma robe, c'est tout. »
Quand les rires furent calmés, James regarda son fils et dit d'une voix grave.
« Harry, nous allons essayer de faire en sorte que tes vacances soient les plus normales possibles, malgré les petits imprévus. »
Et il sourit à son invité, comme pour lui assurer qu'il ne lui en voulait pas. « Mais n'oublie pas que nous comptons sur toi pour tenir ta langue et ne parler de notre second Harry à personne, même pas à ton meilleur copain. C'est très important, tu comprends ?»«
Oui, c'est bon, papa, je ne suis pas complètement inconscient. »
« J'avoue que j'aimerais en être un peu plus certain. Ta mère et moi avons voulu vous préserver, toi et ta sœur, des violences qui ont émaillé notre jeunesse, mais je crains que nous ayons trop bien réussi et que vous ne compreniez pas vraiment la gravité de la situation à laquelle notre invité est confronté. »
Rose et son frère contemplèrent gravement Harry, qui s'agita mal à l'aise.
Considérant qu'il s'était bien fait comprendre, James passa à un autre sujet.
« Et toi, Rose ? Tu ne veux pas passer quelques jours chez ton ami Demelza ?
J'irai la voir, mais je préfère passer mes soirées avec vous, »
répondit-elle en englobant son père et Harry dans un sourire à la Lily.
Tu ne vas pas t'ennuyer ? S'inquiéta James.
Oh non ! Je dois m'occuper de mon potager, lire tous les livres que maman m'a achetés, faire mes devoirs de vacances et aujourd'hui, j'ai un Veracruz à embêter.
Ah ! Tu notes, papa ? Elle avoue, c'est elle qui me cherche.
Je note. Harry non Veracruz a-t-il terminé de déjeuner ?
Hé ! Protesta Harry Veracruz.
Oui, j'ai fini, James, assura Harry non Veracruz.
James se leva et se rendit dans le vestibule suivi de son élève.
On va transplaner, indiqua-t-il en lui tendant le bras.
L'instant d'après, il se trouvait en plein cœur de la forêt.
Tu sais transplaner tout seul ? Demanda James.
Oui, j'ai pris des cours, mais je n'ai pas encore eu le temps de passer mon permis.
On va voir ça, alors. C'est très utile pendant les affrontements. Bon, essaie de passer derrière moi et concentre-toi bien. Je n'ai pas envie de devoir te récupérer aux quatre coins du pays.
Merci de m'encourager, dit Harry d'un ton ironique.
Voldemort ne t'encouragera pas, répondit gravement James. Il tentera au contraire de te déstabiliser et te convaincre que tu es moins fort que lui.
Ce ne sera pas difficile, vu qu'il est effectivement infiniment plus puissant que moi, soupira Harry, réellement découragé.
Ne crois pas cela. Il a tenté trois fois de te tuer et tu es toujours vivant. Il existe en outre une prophétie indiquant que tu peux le tuer. Tu lui fais peur, très peur. Cela lui fera commettre des erreurs. Rien n'est joué, mon garçon. Ne l'oublie jamais, insista James en lui donnant une petite tape amicale sur l'épaule, ce qui réconforta davantage Harry que toutes ses paroles.
Mais assez parlé, transplane.
Harry se concentra et réussit à se projeter derrière James.
« Très bien, tu maîtrises le déplacement de précision. En rentrant à la maison, on verra ce que tu vaux sur les longues distances. Que connais-tu comme sort de défense et de combat ?»«
Le Protego, l'Expelliarmus, le Stupéfix, le Silencio, le Tarantella, le Patronum, le Blockjamb. »
Harry s'interrompit, n'osant avouer qu'il avait un jour tenté de lancer un Doloris.
« Bon, c'est pas mal. » « Montre-moi ton fameux patronus corporel pour commencer. »
Harry se concentra sur ses derniers jours, jeu avec la fratrie, discussion calme avec Lily, James quand il était de bonne humeur.
« Spero patronum. »
Un cerf plus brillant et imposant qu'il ne l'avait jamais été surgit de sa baguette et fit majestueusement le tour de la clairière avant de revenir vers eux.
James, manifestement fasciné, murmura d'une voix enrouée.
« Il est superbe !»
L'apparition disparut graduellement.
« Bon !» commença James d'une voix toujours altérée avant de s'éclaircir la gorge.
« On va passer à la suite du programme. Je vais t'envoyer des projections contre lesquelles tu devras te défendre.
Simulo !»
Harry se trouva entouré d'ombre.
« Protego !»
dit-il instinctivement quand un éclair coloré fusa vers lui. Il envoya des sorts offensifs et vit que ses adversaires explosaient quand il faisait mouche. Mais d'autres revenaient à la charge et il devait encore et encore se défendre et les éliminer. Un quart d'heure plus tard, les rangs de ses attaquants s'éclaircirent et ils disparurent enfin. Il se laissa aller sur le sol à bout de souffle.
« C'est pas mal, » admit James.
Harry regarda ses bras. Ils étaient recouverts de taches de couleur.
« Qu'est-ce que c'est que cela ? » demanda-t-il inquiet.
La preuve que tu as été touché. Tu as encore des progrès à faire.
Mais comment pouvais-je les éviter ? Ils m'entouraient.
Tu aurais pu transplaner derrière eux ? Lui fit remarquer son instructeur.
Je ne peux pas me concentrer suffisamment dans de telles conditions.
C'est justement ce que tu dois apprendre à faire. On reprend dans 5 minutes. Tiens, ajouta-t-il en lui tendant une gourde. Ne bois qu'une gorgée, sinon tu vas t'alourdir.
Qu'est-ce que c'est ?
De l'eau. Rien de plus. Tu n'auras pas forcément de potion reconstituante quand tu en auras besoin. Tu dois t'habituer à faire sans.
Alors que Harry lui rendait sa gourde, James demanda presque timidement.
« Dis, ton patronus, tu as une idée de sa signification ?»«
Oui, Remus m'a expliqué. J'ai même cru... »
C'était difficile de reparler de cet épisode à celui qui aurait pu être son père, mais il sentait qu'il le lui devait.
La première fois que j'ai vu mon patronus, j'étais à deux endroits à la fois à cause du retourneur de temps, et j'ai cru que c'était mon père qui se dressait devant moi et qui me l'envoyait. Après seulement, j'ai compris que c'était moi. Cela m'a fait drôle sur le coup.
Drôle n'était pas le mot qu'aurait voulu utiliser Harry, mais il savait que l'homme dont le regard était fixé au sol le comprenait.
« Et vous ? » demanda le jeune homme. « Vous avez le même ?»
James déglutit plusieurs fois avant de se risquer à répondre.
« Non, le mien est un faucon. Mon père en élevait. Les dressés étaient son passe-temps favori.
Vous pourriez me le montrer ?» demanda Harry après avoir laissé passer un silence.
« Si tu veux. »
L'homme ferma les yeux et se concentra durant quelques secondes avant de sourire à un souvenir intérieur,
et de prononcer la formule. Un magnifique rapace surgit de sa baguette et plana un instant en cercle au-dessus d'eux avant de se dissoudre.
« Merci, » dit doucement Harry. « Personne ne m'a jamais parlé de mes grands-parents. J'aimerais bien savoir comment ils étaient. »
« On en parlera ce soir, » lui promit James. « Je te montrerai des photos. Mais maintenant, reprenons. » Ils mangèrent frugalement à midi, et ce n'est qu'à 4 heures que James déclara la leçon terminée. Harry était moulu et couvert de contusions car, à la fin, les sorts envoyés par James étaient devenus plus offensifs pour lui apprendre à mieux s'en protéger, lui avait expliqué son implacable professeur.
« Je te laisse transpaner vers la maison, » indiqua ce dernier.
« Vous êtes sûr ? Je suis épuisé, je risque de faire une erreur. »
« Écoute, Harry, imagine que tu as échappé à une embuscade, que tu n'en peux plus, mais que l'un de tes amis est en train d'agoniser à côté de toi. Tu vas hésiter à l'emmener à Sainte-Mangouste juste parce que tu as peur de te planter ?»
Harry hocha négativement la tête.
« Bon, eh bien, on se retrouve dans le vestibule, » conclut James avec un sourire.
James disparut. Harry soupira et se concentra sur sa destination. Il voulait éviter à son instructeur d'avoir à le chercher aux quatre coins du pays.
Le soir, comme promis, James sortit les albums de photos et raconta des anecdotes de son enfance, ainsi que les histoires marquantes arrivées aux divers membres de la famille et qu'on se raconte de génération en génération. Lily, qui connaissait sans doute tout cela par cœur, était montée à l'étage pour faire des rangements, tandis que ses enfants prenaient manifestement plaisir à réécouter ses récits. Lily surgit des vêtements à la main.
« Harry, j'ai réservé ces 3 robes à ton usage. Elles te plaisent ?»
demanda-t-elle.
« Je suppose, » dit Harry, qui n'avait pas l'habitude de choisir ses vêtements.
« Tu peux lui donner ma grise, » intervint l'autre Harry. « Je ne l'aime pas tellement. »
« Non, mais dis donc, c'est ça ta notion du partage ? C'est à ton invité de choisir. Comment t'habilles-tu d'habitude ?»
insista Lily en regardant Harry.
« Je mets ma robe d'école. »
« Et pendant les vacances ?»«
Les vêtements de mon cousin, » avoua Harry, très embarrassé.
« Pétunia ne t'achète jamais de vêtements ?»
demanda Lily d'une voix incrédule.
« Non. » « Je ne lui ai pas dit que j'avais de l'argent chez Gringotts, » tenta d'expliquer Harry, qui comprit que ce n'était pas la bonne réponse en voyant le regard consterné que James et Lily échangèrent.
« Mais c'est affreux !»
s'écria Rose.
« Pourquoi on t'a envoyé chez elle si on te traitait aussi mal là-bas ?»
Harry regarda Lily, espérant qu'elle allait répondre à sa place, mais à sa grande surprise, elle renchérit.
« C'est vrai, ça ! À quoi a pensé le professeur Dumbledore en te faisant élever hors du monde magique ? Il devait bien se douter que tu étais sorcier, toi aussi.
Pour éviter que je sois conscient de ma célébrité, expliqua Harry. Et surtout, à cause de la protection.
Quelle protection ?
Continua-t-elle à ne pas comprendre.
La protection du sang, développa Harry, stupéfait qu'elle ne sache pas cela. Celle que vous, enfin, ma mère, a créée en mourant. En allant chez ma tante, cela me protégeait de Voldemort. « C'est pour cela que j'ai dû y retourner jusqu'à cet été, jusqu'à mes 17 ans, » précisa-t-il.
Les yeux de Lily s'écarquillèrent d'un coup quand elle comprit enfin. Elle resta plusieurs secondes sans pouvoir prononcer un mot, le visage décomposé.
« C'est du passé, Lily. Nous avons fait de notre mieux, » finit par dire James, après les quelques instants qu'il lui avait fallu pour comprendre à son tour.
« Oh non !»
gémit Lily.
« Je n'avais pas prévu cela. Oh !» « Harry, pardonne-moi, c'est moi qui t'ai livré à eux. Que Merlin me pardonne. »
Elle éclata en sanglots et sortit en courant. James la suivit, mais avant de quitter la pièce, fit remarquer, visiblement mécontent,
« Ce n'est pas parce qu'on te pose une question qu'il faut forcément y répondre. »
Harry, décontenancé, fixa la porte par laquelle ils étaient sortis, tentant de comprendre comment la situation avait pu déraper ainsi.
« Ne t'en fais pas, » commenta l'autre Harry.
« De toute façon, dès qu'on parle famille, maman pleure. Elle a essayé d'aller les voir, mais ils n'ont pas voulu lui ouvrir. Il paraît qu'à travers la porte, le mari de sa sœur lui a dit qu'elle était une monstruosité et qu'il allait appeler la police.
« Il ne l'aurait pas fait, » jugea Harry, « bien trop peur qu'elle révèle à tous qu'elle leur était apparentée, sans compter ce qu'en auraient dit les voisins. »
« Oui, enfin bon,
Elle a pleuré des heures en rentrant et même que papa a fini par lui dire que c'était stupide de faire autant d'histoires pour des moldus. Et il ne t'en voudra pas très longtemps. Il est juste très protecteur à l'égard de maman. Tu vois, ce n'est pas si grave.
Il y a vraiment des fois où je me dis que toi et papa avez autant de sensibilité qu'un couteau à potion,
prétendit Rose d'un ton pincé. Elle alla vérifier que ses parents étaient bien hors de portée de voix avant de revenir vers Harry et de lui demander.
« Tu nous expliques un peu mieux ?»
Harry fut tenté de ne pas répondre, influencé par la remarque de James, mais il commençait à connaître Rose et savait qu'elle ne le laisserait pas en paix tant qu'il n'aurait pas lâché le morceau. Il expliqua donc comment la mort de sa mère avait créé un bouclier qui le protégeait tant que ce qu'il considérait comme son foyer était habité par une personne du même sang. C'est ainsi qu'il avait dû vivre avec Pétunia et, par extension, avec l'abominable Vernon et l'ignoble Dudley.
C'est vrai qu'ils n'avaient pas l'air marrants,
admit Rose qui les avait vus dans la pancine.
Bon, ne fais pas cette tête, ce n'est pas de ta faute si tu as dû vivre avec eux.
Je n'aurais pas dû expliquer tout ça à votre mère, fit tristement Harry.
Elle s'en remettra, lui assura son double. Elle va en faire un peu trop avec toi pendant quelques jours, puis après ça ira mieux,
tempéra Rose. Prépare-toi à être cajolé, à ne pas tousser sans qu'on te propose un pull, ni à bâiller sans que l'on t'envoie au lit, précisa son frère terre à terre. Quand elle a l'impression de ne pas avoir été à la hauteur avec nous, après, elle essaie de se rattraper, et c'est pire.
Désolé, fit Harry Penaud, se disant que ça allait être agaçant pour les enfants légitimes de la voir s'occuper d'un autre. Mais les intéressés semblaient plus compatissants que jaloux et lui donnèrent des conseils pour prévenir toutes les manies maternelles avant de lui proposer une partie de tarot.
Le lendemain matin, le fils de la maison partit chez son ami Neville avec un paquet mal ficelé sous le bras. Harry, ce jour-là, comme les suivants, partit s'entraîner avec James qui, sous ses airs débonnaires et insouciants, cachait un professeur de duel précis et intransigeant. Il ne voyait Lily que le soir et, effectivement, elle le couva particulièrement pendant plusieurs jours, reprochant même à James les contusions qui décoraient le front et les bras de Harry. Le troisième jour, ils se disputèrent un moment à propos des méthodes d'éducation de James sous les yeux horrifiés de Harry, tandis que Rose continuait tranquillement de manger, comme si elle était familière de ce genre de scène. Finalement, la querelle s'apaisa, on changea de sujet, sans que les deux époux ne marquent aucune froideur particulière l'un envers l'autre. Et le lendemain, Lily avait retrouvé une attitude plus naturelle envers Harry, qui en fut grandement soulagé. À la fin de la semaine, Dumbledore vint les tenir au courant de ses avancées. Il avait trouvé sans peine le médaillon de Serpentard dans un coffre du square Grimmore, mais ce dernier ne recelait pas de fragments d'âme. Sans doute Régulus Black l'avait-il désactivé. La bague des Gaunt, grâce aux indications de Harry, avait été facilement récupérée. Dumbledore avait profité de son voyage à Little Angleton pour faire un tour dans la maison de famille des Gedusor et avait trouvé une coupe que Harry confirma être celle qu'il avait vue dans la pancine de son mentor, celle qui appartenait à Helga Poufsouffle. Les deux objets réagirent positivement au révélateur de magie noire que connaissait Severus Rogue. On évoqua d'envoyer une escouade d'aurore chez les Malfoy pour récupérer le journal de Gedusor et Harry parla d'une cachette sous le plancher du salon. Quand James apprit comment il avait obtenu l'information, il se déclara très fier de lui et Harry en rougit de confusion. Lily se montra davantage impressionnée par la prestation d'Hermione avec le polynectar. En leur racontant cet épisode, Harry ressentit une fois de plus combien ses amis lui manquaient. D'ailleurs, il en parlait beaucoup avec Rose, une fois son entraînement terminé, lui racontant par bribes les épisodes de sa vie qu'il n'avait pas encore évoqués devant elle. La seule chose qu'il lui cacha soigneusement était ses sentiments pour Ginny. Il faisait pleinement confiance à la jeune fille et l'aimait énormément, mais il savait que, comme toutes les filles, elle portait un intérêt démesuré aux affaires de cœur et qu'elle ne le lâcherait plus avec ça s'il lui révélait sa courte romance avec la sœur de Ron. Or, il n'avait vraiment, mais alors vraiment, aucune envie d'en parler. Rien que d'y penser lui serrait la gorge. Quelques jours plus tard, ce fut Rogue qui mit la main sur l'objet qui aurait dû devenir un Horcrux après l'assassinat de Harry. Le langue de plomb avait mis à contribution son réseau de connaissances au ministère
et avait réussi à avoir accès aux objets qui avaient été mis sous scellés le jour de l'arrestation de Voldemort. Il les avait examinés et n'avait rien trouvé qui soit susceptible d'avoir appartenu à l'un des fondateurs. Il en avait cependant subtilisé un qu'il lui avait semblé étrange de trouver là.
« C'est un badge de préfet !» reconnut Harry quand Rogue le sortit de la bourse dans laquelle il l'avait amené.
« Celui de Tom Jedusor, »
comprit Dumbledore.
« Ce n'est pas dans la liste que nous avions établie, » fit remarquer Lily.
« Comme l'avait indiqué mon homologue à Harry, » répondit le vieux sorcier, « il est probable que Voldemort ait dû renoncer à utiliser une relique ayant appartenu à Godric Gryffondor, car les seuls que nous connaissons sont sous bonne garde à Poudlard. Il se serait donc rabattu sur un autre symbole. »
« En quoi est-ce un symbole ?» demanda James, qui assistait à toutes les réunions qui avaient lieu à Godric's Hollow.
« C'est le rappel de la première fois où on lui a concédé un pouvoir sur ses camarades, »
expliqua le directeur d'un ton triste.
« Et c'est également le symbole de l'aveuglement de l'équipe enseignante de Poudlard à son sujet. Tom savait très bien que si nous avions eu idée de ses opinions et de son ambition, nous ne l'aurions jamais nommé.
« Bon, je devrais donc le trouver dans les ruines de la maison de mes parents, » résuma Harry. « Et c'est peut-être un Horcrux chez moi, c'est ça ?»«
C'est une possibilité, »
répondit gravement Dumbledore. Il resta songeur un instant avant de continuer.
« Dans le courant de la semaine, j'irai à l'orphelinat Moldu où Tom avait passé son enfance pour voir si c'est là qu'il a dissimulé la relique inconnue de Serre d'Aigle. James, je compte sur vous et vos relations pour que la perquisition chez les Malfoy aboutisse. »
Alors que James hochait la tête pour signifier qu'il s'en chargeait, Dumbledore continua.
« Severus, Lily, où en êtes-vous dans vos recherches ?»«
Nous avançons, professeur, » lui assura Lily. « Nous avons trouvé plusieurs rituels possibles, mais nous n'avons aucun moyen de les tester. Nous les essaierons quand tous les Horcruxes seront à notre disposition et que nous irons à Azkaban pour les désactiver. En attendant, nous continuons à étudier tous les ouvrages qui nous tombent sous la main pour tenter de déterminer ceux qui ont le plus de chances de marcher.
« Très bien, » conclut Dumbledore. « Sauf nouvelle à annoncer, nous nous retrouverons ici la semaine prochaine pour faire le point. Bonne soirée à vous tous. »